Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Isabelle Pendeza Bikai, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFE dans sigle. Elle est une femme leader et activiste des droits de l'homme du Nord Kivu. Bonjour Madame Isabelle Pendeza Bikai.
Bonsoir Monsieur Guy et bonsoir aussi aux collègues.
Monsieur Moïse Moussanganya, journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Bonjour Monsieur Moïse Moussanganya.
Bonjour Monsieur Guy.
Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Bonjour également Abdourahmane Dia.
Bonjour Guy et bonjour à tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Isabelle Pendeza Bikai, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFE dans sigle. Elle est une femme leader et activiste des droits de l'homme du Nord Kivu. Monsieur Moïse Moussangana, journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, et il est chercheur en matière électorale. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Au menu de cette émission, la guerre économique à l'Est sur fond de l'arrestation du député Mwanga Tchoutchou, le rôle de la femme dans le processus de paix et la loi sur la congolité appelée loi Noël Tchani. Mais nous allons commencer par un commentaire au sujet du réaménagement du gouvernement Samalou Kondé. En effet, l'équipe gouvernementale de Jean-Michel Samalou Kondé a été réaménagée par ordonnance présidentielle publiée jeudi dans la soirée sur la chaîne nationale. Jean-Pierre Bemba est nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale. Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État chargé de l'intégration régionale. Peter Kazadi, alors député provincial de Kinshasa et cadre de l'UDPS, devient vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Parmi les nouveaux, dans les gouvernements Samalou Kondé, François Kabulo Mwana Kabulo au sport, Roger Kamba est le nouveau ministre de la Santé, tandis que le ministère du Plan est confié à Touluka Soumouina Judith et les transports à Marc Ekila. Madame Isabelle Pendeza Bikai, comment vous réagissez à ces réaménagements du gouvernement Samalou Kondé?
Bonjour à tous, bonjour aux bonnes personnes qui me suivent de partout. Je voulais d'abord remercier les chefs de l'État en tant que les pères de la nation par rapport au remaniement du gouvernement de Samalou Kondé. D'une manière générale, je pense que les nominations interviennent toujours selon le cycle et selon la période. Mais de mon côté, je voulais remercier d'abord pour voir au moins le niveau de la participation des femmes qui est un peu élevé par rapport à la fois passée. Et puis aujourd'hui, on peut voir sur la liste, le point de vue statistique, il y a plus ou moins 28%, 5% de femmes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement de Samalou Kondé. Mais nous savons que c'est une avancée par rapport aux années passées, mais nous comptons ce qui est dans les textes, dans notre constitution, c'est la parité. Ça veut dire 50-50 de tous les côtés, que ça soit du côté des hommes, que ça soit du côté des femmes. Parce qu'on doit faire la différence entre la promotion des droits de la femme et les genres. Merci.
Monsieur Moïse Moussangana, à 9 mois des élections, les potentiels présidentiables font leur entrée au gouvernement. Et à votre avis, c'est quoi le message?
Bon, il faut dire que c'est, je considère ça comme un gouvernement axé sur les élections, donc sur fond des resserrements de l'union sacrée de la nation. Aussi, c'est un gouvernement qui, en dehors des élections, vise aussi la guerre qui est à l'Est, parce que quand on voit l'entrée de Jean-Pierre Bemba, qui même s'il n'est pas militaire au vrai sens du mot, a été quand même chef de guerre, hein, et il a combattu sur cette partie-là orientale du pays, c'est-à-dire qu'il en sait quand même quelque chose, et puis il y a les retours de Moussa Nyamusi, donc on a aussi l'influence sur le Grand Nord, comme on dit à Goma là-bas, sur le Grand Nord. Donc je vois que il y a un effort qui est fait pour amener des leaders d'une certaine pointure, de telle manière à aborder les problèmes qui sont en train de miner la République démocratique aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre. Il y a aussi l'économie, même si avec l'économie, surtout avec l'inflation ces derniers temps, il y a aussi des causes exogènes, comme au départ déjà le Covid a son impact. Vous avez la guerre russo-ukrainienne, il y a aussi la guerre qui nous est imposée à l'Est par les Rwanda. Tout ça font pression sur l'économie et on a ce que nous avons aujourd'hui sur le plan national en ce qui concerne l'économie. Bon, en dehors de ces faits exogènes, il faut dire qu'il y a aussi des faits endogènes, hein, dus à certains problèmes de gouvernance sur le plan national. Donc voilà, c'est tout ça. Quand je vois la composition du gouvernement, je crois que c'est un effort qui est fait pour essayer d'embrasser à la fois tous ces problèmes qui minent l'avenir du pays, et donc pour pouvoir en sortir. Donc c'est comme je venais de le dire, c'est un gouvernement à vocation électoraliste sur fond de resserrement des rangs de l'Union sacrée et avec rayonnement sur les problèmes économiques et la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire.
Merci Abdourahman Dia. À votre avis, cette nouvelle équipe vient pour améliorer l'action du gouvernement Samalou Kondé ou elle vient pour aider le président Tshisekedi à avoir un deuxième mandat? Il faut rappeler que quand on a Vital Kamerhe, on s'assure d'avoir les voix du Sud Kivu. Et quand on a Mbusa Nyamwesi, on s'assure, n'est-ce pas, d'obtenir beaucoup de voix au Nord Kivu. Et avec Jean-Pierre Bemba, on peut espérer gagner les Grands Équateurs et une partie de Kinshasa. À votre avis, c'est quoi son objectif? C'est quoi sa mission? C'est celle d'améliorer, n'est-ce pas, l'action du gouvernement Samalou Kondé? Ou plutôt c'est pour des visées électoralistes?
Je ne sais pas la vraie raison, mais comme l'a dit mon prédécesseur, il va être difficile de ne pas penser au contexte préélectoral et aux élections dans 9 mois, quand on voit, disons, les grosses pointures qui sont incluses dans ce nouveau gouvernement, Jean-Pierre Bemba, effectivement, et Vital Kamerhe, qui sont issus de bastions électoraux très très importants, et le président lui-même qui est originaire du Kassai. Donc on voit déjà un peu la composition et un peu la coalition qui se confie, bon, qui était déjà là, mais sur le plan électoral, il est clair que c'est un élément qu'on ne peut pas évacuer. Maintenant, comme l'a dit également mon prédécesseur, il y a d'autres défis, l'économie et tout ça. Et ce serait bien de présenter aux électeurs un bilan positif pour prétendre à un second mandat. Donc tout cela, à mon avis, est bien lié. Et les deux en question, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bamba, qui occupent des postes de souveraineté très importants. Donc, je pense que c'est un peu lié. Et ça confirme un peu la fin de l'épisode, un peu, disons, la brouille entre le président Tshisekedi et M. Kamerhe. Donc, il est clair que, comme on dit souvent, pour emprunter le langage biblique, les voies de la politique sont insondables, et également pour emprunter le langage militaire, c'est le terrain qui commande. Donc je pense que face à la réalité, face aux échéances qui se dessinent, le président a certainement dû se dire qu'il était important de faire un rappel des troupes et de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir présenter un bilan d'ici quelques mois qui pourrait convaincre les électeurs.
Merci, on prend une petite pause avec Que demande le peuple de Félix Oisecoy et on revient tout de suite après.
Que demande le peuple? Raïa analomba nini?
Peuple zo senga nini?
Unwa kuja kubwata Anabatanga kape bazo akaswe Soki babeli.
A mes frères africains, toute vérité est provisoire.
C'était Que demande le peuple, composé par Félix Oisecoy, un artiste musicien et parolier congolais qui a eu à collaborer avec beaucoup d'artistes musiciens congolais, notamment Papa Wemba et récemment avec Koffi Olomide. On revient à l'actualité de cette semaine. Les avocats de la défense du député national Edouard Mwanga Tchouchou se sont absentés à l'audience d'instruction du dossier mardi 21 mars dernier à la prison centrale de Makala. Approchés par Radio Kapi, les avocats du député ont affirmé craindre pour leur sécurité. Ils veulent avoir des garanties à l'isolement faite, notamment à leurs confrères dans la même cause, les bâtonniers honoraires de Goma Joseph Osana Nechiko. Celui-ci est arrêté et détenu, d'après eux, au renseignement militaire ex-DEMIAP. La haute cour militaire a renvoyé la cause à mardi prochain. Edouard Mangachuchu, comparé depuis le 3 mars dernier devant la haute cour militaire en procédure de flagrance. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires. Moïse Moussangana, vous êtes journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Vous êtes aussi chercheur en matière électorale. Vous avez choisi ce sujet que vous intitulez « La guerre économique à l'Est sur fond de l'arrestation du député Mangachuchu ». Qu'est-ce qui motive ces choix et qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, n'est-ce pas, en optant pour ce sujet?
Je crois que je voudrais un peu éclairer la religion de l'opinion, parce que quand je vois des publications, surtout sur les réseaux sociaux, on va dans un sens comme dans un autre, et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la vraie question, comment les choses se posent. C'est pourquoi j'ai voulu que je parle un peu de ce sujet, en rappelant juste un bref historique, comme ça les gens peuvent comprendre comment les choses se sont enchaînées, jusque même à l'arrestation du député Mangachuchu. Vous savez que en 1996, quand la guerre a commencé en République démocratique du Congo, les motivations profondes étaient beaucoup plus politiques et ethniques. Mais au fur et à mesure, les motivations ont changé et sont devenues beaucoup plus économiques. En ce sens, surtout avec la deuxième guerre de 1898, déclenchée par l'RCD. L'exploitation des ressources nationales du Congo se sont avérées ou sont devenues graduellement le moteur de la guerre. Et aussi, dans la perspective du retrait des troupes rwandaises et ougandaises, après les accords suite aux accords de Lusaka et de Luanda, conclus avec le concours de la République sud-africaine et l'Angola, il s'est mis en place des systèmes plus organisés qui permettaient à ces pays, à leurs armées, de continuer à piller les ressources du Congo incognito. Donc par le biais de ce qu'on a appelé autrefois par les sphères de l'ONU, les réseaux d'élite et même par la création des sociétés écrans. Donc il a émergé à ce moment-là, dans la galaxie du RCD Goma, plusieurs sociétés. J'en cite deux. Il y a eu la société Somigène, qui appartenait à Madame Aziza Koulsoum, une femme réputée trafiquante des armes dans le conflit burundais, qui rapportait $1 million au RCD par mois. Et la deuxième société dans la galaxie du RCD, c'est MHI, le Mangachuchu Easy International, qui s'est mué à SMB par après. Mangachuchu, lui, a profité de la concession de Sakima, d'une partie de la concession de Sakima, le PS76, qui avait une dimension de 360 carrés. On a amputé 36 carrés qu'on a attribué par les RCD Goma à l'époque à Mangachuchu, et cela a fait que, à partir de cette concession qui était considérée comme butin de guerre par les habitants de Masisi, ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes entre Mangachuchu et les habitants de Masisi jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils considèrent qu'il a acquis illégalement, anarchiquement, parce que comme butin de guerre, une concession d'une entreprise publique Sakima. Et vous allez voir que, en dehors de ça, le minerai de la République démocratique du Congo, parce qu'entre-temps, il y a eu flambée du coltan en 2000, et compte tenu des propriétés du coltan, compte tenu de son importance dans plusieurs industries aéronautiques, aérospatiales, de défense, dans la téléphonie cellulaire, dans nos ordinateurs, et qu'on sort, tout le monde qui a voulu contrôler le coltan a voulu mettre la main sur les réserves en République démocratique du Congo qui sont évaluées à entre 60 et 80% des réserves du coltan dans le monde. Et c'est ça qui a fait que les États-Unis ont damé les pions aux puissances européennes sur le coltan. C'est pas pour rien que la France est en train de venir à petits pas. Donc, le minerai du Congo sont un enjeu aujourd'hui sur le plan international. Et quand vous prenez aussi la transition énergétique qui est en perspective, que nous sommes en train de vivre, il y a aussi un autre un autre minerai congolais qui est aussi qui servait encore plus stratégique aujourd'hui, c'est le cobalt. Donc voilà, donc le minerai du Congo sont un enjeu vraiment pas seulement géopolitique, géoéconomique et consort, tout le monde a besoin de contrôler le minerai du Congo. Et on passe par les Rwanda, on passe par tous ces pays-là et consorts. Et ces gens-là ont l'air d'agents ici. Donc, c'est comme je vous venais de vous faire voir, Mwanga Tchoutchou, par sa société, c'était une société qui a émergé dans la galaxie RCD. Merci. Et pendant toutes ces années d'exploitation, les Rwanda étaient le premier producteur mondial du coltan. Il a fallu que les choses changent un peu dans les années 2016-2017, quand le Congo a essayé de se réveiller, pour que le Rwanda perde sa place de premier producteur mondial. Et aujourd'hui, les dernières statistiques de 2022 font que le Congo est le premier producteur sur 2300 tonnes de cuivre consommées, plutôt de coltan consommé en 2022. C'est le Congo qui est premier avec 860 tonnes.
Merci,
en 2021, le Congo était premier avec 700 tonnes et en 2020, il était premier avec 780 tonnes. Loin derrière le Rwanda avec 250, 260 et en 2022, c'est 350. Vous voyez tout cet enjeu-là, c'est pourquoi j'ai voulu aborder cette question de telle manière à éclairer un peu les gens pour voir quels sont les véritables enjeux, parce que les gens ne connaissent pas les véritables enjeux.
Merci, on a compris. Madame Isabelle Pendeza Bikai, vous êtes présidente du collectif des associations féminines pour le développement Café dans Sigle. Vous êtes aussi une femme leader, activiste des droits de l'homme du Nord Kivu. Vous êtes dans cette région du Nord Kivu. C'est vrai que le procès Mwanga Tchoutchou n'est pas encore terminé, et donc le député Mwanga Tchoutchou est encore présumé innocent. Et on ne connaît pas encore beaucoup de choses, n'est-ce pas, par rapport à ces dossiers. Mais sur base de quelques bribes d'informations révélées, peut-on se permettre déjà d'affirmer que l'affaire Mwanga Tchoutchou confirme la thèse selon laquelle la guerre dans l'Est de la RDC est une guerre économique, comme vient de les soutenir M. Moïse Moussangana?
Je pense que ce que vient de dire notre frère, notre collègue, il a des preuves, il a des soubassements, il a des informations qui lui permettent d'affirmer ces choses. Mais en tant que femme activiste, en tant que femme leader, je lui dois que rester au centre de tout ça, parce que jusqu'à présent, comme vous l'avez dit aussi, il est encore présumé. Et donc, il n'y a pas encore des résultats par rapport à son innocence ou par rapport à sa condamnation. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est que la justice soit vraiment neutre cette fois-ci, que la justice soit vraiment cadrée sur les vérités et sur les faits. Et ce n'est pas aussi autorisé à ce moment de parler, d'affirmer certaines choses par rapport à son innocence. Et moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il est, il est fautif, il est innocent. Non, on attend le résultat et le rapport final de la justice. Et cela nous interpelle tous en tant que Congolais de rester vigilants et de rester aussi à l'écoute de la justice congolaise. Et c'est tout ce que je pouvais peut-être ajouter par rapport à ça.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du procès comme nous l'avons dit, mais vous en tant qu'activiste des droits humains, lorsque vous avez vu ces images qui circulaient, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux où on montrait des munitions et des armes qui étaient découvertes dans les différentes résidences du député Mwanga Tchoutchou, comment vous avez réagi?
Moi, personnellement, j'ai réagi avec un esprit de déception parce que j'étais déçue de voir que de telles choses pouvaient devenir d'une autorité qui l'ont considérée. Mais je répète aussi que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a maintenant du mélimélo, on mélange tout, on partage des images sans pour autant les vérifier, mais je crois que ça devrait interpeller tout le monde et ça devrait aussi faire en sorte que chaque Congolais là où il est soit d'abord un agent qui se soucie de son pays, mais aussi rester, je dirais, patriote dans les respects et aussi selon la loi.
Merci Abdourahman Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. De Washington, où vous intervenez, quel est votre regard par rapport à cette guerre avec cette arrestation du député Mwanga Tchutchu?
Alors, je dois dire que c'est un épisode que je ne suis pas de façon très de très près. Je dirais simplement que bon, dans l'est de la RDC, comme dans beaucoup de zones de conflit en général, l'instabilité favorise un peu, disons, le manque de transparence dans la gestion des ressources, et tout ce qui se passe dans l'est de la RDC ne milite pas pour une gestion transparente et pour que la RDC profite pleinement de ses énormes ressources, de ses minerais. Donc il est clair que tout ce qui se passe dans l'Est est très favorable à une exploitation, à des trafics illicites de tout genre. Donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça, mais donc je reste sur les principes et je suis d'accord avec madame. C'est un procès en cours, donc on attend de voir ce qui va se passer. Les images sur Internet aussi, souvent, il faut peut-être passer par un processus d'authentification, vous le savez mieux que moi en tant que journaliste. Donc je ne pourrais pas aller au-delà, sinon dire que effectivement, quand il y a conflit, il est clair que le pays perd en matière de ressources, puisqu'il y a toutes sortes de trafics, aussi bien venant d'acteurs internes que peut-être de externes aussi, y compris certainement des pays. Donc il est clair qu'il est dans l'intérêt de la RDC de résoudre cette question sécuritaire, soit avec les partenaires internationaux, soit par elle-même. Il est clair que la RDC elle-même ne pourra pas y venir, parce que maintenant il faut trouver une formule qui va de son intérêt, en coopérant comme elle le fait en ce moment avec les pays de la région, mais également sur le plan international. Mais il est clair qu'il faut mettre un terme à ces différents conflits si la RDC veut profiter pleinement de ses ressources.
Oui, Abdourahman Dia, lorsqu'on parle de la guerre qui affecte l'Est de la RDC, on évoque beaucoup d'aspects, dossier FDLR, dossier réfugiés qui doivent revenir au pays. Et là, c'est maintenant un dossier exploitation des minerais. À votre avis, c'est quoi les dessous des cartes?
Ça peut être tout cela à la fois, mais il est clair que l'argument économique qu'avance mon confrère est une réalité. L'économie, souvent, est à la source de beaucoup de conflits, pas seulement RDC, il est clair. Donc, moi, je pense que l'aspect économique, on ne peut pas l'occulter. Maintenant, qui sont les acteurs et tout ça, ça fait un débat. Moi, je ne vais pas entrer dans des accusations sans avoir des preuves, mais il est clair que le soubassement économique est une des réalités du conflit. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres facteurs, la distribution des ressources de manière équitable, la question du développement, les questions de justice, tout ça sont des facteurs, mais la question économique, clairement, c'est un des top de la liste, si je peux m'exprimer ainsi.
Merci, on prend une pause, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, la Corporation des musiciens congolais pleure l'un de ses membres en la personne de Sax Sakul, l'un des leaders de l'orchestre Sosolisso du trio Majesty. Ce chanteur est mort dimanche à Montreux en France à l'âge de 80 ans, des suites d'une maladie. Et pour lui rendre hommage, on va écouter une des chansons du groupe Sosolisso, Chérie Louza, et on revient juste après.
Chérie Louza, Chérie Louza, Naila Sandi Bolingo Mama, Nathalie à la photo et Yomanda. Thank you.
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur le réaménagement du gouvernement Samalou Kondé. Nous avons également analysé la guerre dans l'est de la RDC. Participe à cette émission Madame Isabelle Pendeza Bikai, présidente du collectif des associations féminines pour le développement Café dans Sigle. Elle est une femme leader et activiste des droits de l'homme du Nord Kivu. Moïse Moussangana, journaliste professionnel, il est ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Les consortiums des organisations féminines du Nord Kivu a lancé vendredi 17 mars à Goma les projets des femmes doyennes et ambassadrices pour la consolidation de la paix dans ces coins du pays. Ces projets de 3 mois consistent à mettre en place des noyaux des femmes au niveau des 18 quartiers de cette ville. Ces noyaux seront chargés de lutter contre les messages de la haine et la désinformation. Avec l'appui de la MONUSCO, ces projets veulent mettre en valeur le travail des femmes de Goma dans la construction de la paix. À cette occasion, la coordonnatrice de l'organisation Femmes Unies pour le Progrès Social a affirmé que les femmes du Nord Kivu ont un rôle à jouer pour le retour de la paix dans cette contrée. Madame Isabelle Pendeza Bikai, le sujet que vous avez choisi est celui qui met en exergue, en évidence, n'est-ce pas, les rôles de la femme dans le processus de paix. Pourquoi avez-vous opté pour ce sujet, Madame Isabelle Pendeza?
Merci encore une fois pour cette question. Si nous avons voulu choisir cette thématique, c'est parce que d'abord nous sommes pendant le mois de mars, qui est le mois de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est pour nous une occasion de faire comprendre au monde entier que la femme n'est pas seulement victime, bien qu'elle le soit, mais elle est aussi actrice de changement et de paix. C'est pourquoi je vais essayer par parler au moins des rôles de la femme, parce que dans les années avant 1990, la femme avait le rôle d'une femme traditionnelle. où elle a été connue comme une mère, une épouse qui doit être soumise, qui doit être caractérisée pas par son rapport par rapport à l'emploi, mais par rapport au mariage. Et elle est seulement une femme au foyer qui a sa place à la cuisine et dans la chambre à coucher. Mais cette femme, elle a beaucoup joué son rôle dans les mariages, dans la famille. Mais aujourd'hui, avec la civilisation et avec l'évolution, nous avons des femmes modernes. Et c'est quoi cette femme moderne? C'est la femme qui est capable de solidarité et de créer une communauté. Elle est aussi capable d'être autonome d'une manière morale et financière et partout où elle peut se trouver. Et cette femme doit participer pleinement au processus de paix dans notre pays et aussi participer au poste de prise de décision. C'est ça le rôle de la femme moderne aujourd'hui. Mais vous serez peut-être étonné de comprendre avec moi que les hommes en majorité font la guerre et ce sont les femmes qui cherchent la paix, malheureusement. Les femmes n'utilisent pas les armes, mais elles sont les premières victimes pendant les périodes de conflit, pendant les périodes de manque de paix et de sécurité. Et les femmes ne peuvent pas aussi rester là-bas en train de dire que oui, on est des victimes, mais croiser les bras, non, les femmes se sont levées. Et je crois avec l'avancée même de la participation des femmes au poste de prise de décision, c'est déjà une avancée significative, bien que ce n'est pas encore les 50-50 que nous revendiquons, parce que on doit suivre les textes et on doit rester dans la légalité de nos textes. Alors, par rapport à son rôle dans le processus de paix, vous savez qu'on n'a jamais eu les 50% de femmes dans chaque processus de paix. Il y a eu beaucoup de processus, il y a eu le processus au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de Nairobi, au niveau de l'Ouganda et partout. Par rapport à la recherche de la paix, et les femmes se sont mobilisées, les unes avec les appuis de certaines personnes, partenaires, mais d'autres avec leurs propres fonds, leurs propres poches. Et c'est là que la femme a montré le pouvoir de sa participation. Parce qu'on ne peut pas parler de problèmes de sécurité si la femme n'est pas là. On ne peut pas parler de questions de développement si la femme n'est pas là. On ne peut pas aussi parler seulement de regarder la femme avec un œil négatif, mais beaucoup plus de la regarder avec un œil positif. On doit parler des avancées, des réalisations et du vrai rôle que cette femme doit jouer pendant cette période.
Merci Madame Isabelle Pendeza. Moïse Moussangana, à votre avis, quel doit être le rôle que la femme congolaise doit jouer dans la recherche de la paix en RDC, dans sa partie est, mais aussi dans des contrées comme Kwamout, hein, le territoire Kwamout dans la province de Maïndombe?
Je voudrais dire que la femme congolaise a un grand rôle, mais avant de m'étendre quelque peu là-dessus, je voudrais revenir sur mes premiers propos. Je voudrais dire que le procès Vanga Tchoutchou est en cours, tout prévenu est présumé innocent. Mais il y a certains soupçons qui pèsent sur Vanga Tchoutchou dans l'exploitation du coltan au Masisi. C'est par exemple, il y a des soupçons depuis très longtemps du déploiement des éléments incontrôlés, des recrues qui viendraient du Rwanda, et sous couvert de la police nationale. Et pour cela, au mois d'avril 2022, le colonel Van Kasongo a été relevé de son poste de commandant second de la police provinciale du Nord Kivu, parce qu'on a estimé que c'est lui qui était en train de couvrir ces faux éléments qui sont déployés dans la concession de Vanga Tchoutchou. C'est tout cela, il y a beaucoup de choses, on n'a pas assez de temps pour développer
voilà.
Cela.
S'il faut maintenant revenir sur les rôles.
Sur M. Vanga Tchoutchou, on reviendra ça plus tard. Et pour revenir à la femme, il y a un dicton qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et vous savez que dans cette histoire d'insécurité qui bat son plein à l'Est, ce sont les femmes qui sont les premières victimes avec leur progéniture, les enfants. Donc il est normal, je soutiens madame qui a donné cette question, parce que la dame, c'est qui? Elle n'est pas seulement mère des enfants, parce que elle a aussi ses enfants parmi, c'est hors la loi qui sont en train de ôter la vie aux gens. Et les sœurs de ces hors la loi. Elle est aussi, parfois, épouse de ces hors-la-loi. Elle est éducatrice de ces hors-la-loi. Donc, on voit que la femme a quand même un grand rôle à jouer là-dessus. Cette histoire, je sais que ça prendra quand même un peu de temps pour qu'elle connaisse un terme. Mais ça, c'est un processus qui va demander que les femmes vont éduquer leurs enfants. Les femmes vont faire en sorte que leurs enfants n'aient pas la haine, ne suscitent pas aussi la haine contre leurs contemporains. Donc les femmes ont un grand rôle dans l'éducation. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je pense que la place de la femme est prépondérante dans le retour de la paix à l'Est. Et je crois que même parfois, quand la communauté internationale s'apitoie sur la situation de l'Est, c'est quand elle voit les cris de détresse lancés par les mamans qui tiennent entre les mains leur progéniture et qu'on sort. Donc je soutiens l'atelier qui est en train de se passer maintenant. Et je pense que les femmes doivent se sentir investies d'une certaine autorité pour pouvoir jouer dans cette affaire. D'ailleurs, merci. Un peu partout, même quand on voit dans la Bible, la femme a toujours joué un certain rôle.
Merci Abdourahmane Dia, et à vous également. Comment la femme peut contribuer à toutes les démarches en cours pour amener la paix dans l'Est de la RDC?
Les femmes sont les premières victimes des conflits, malheureusement. Je pense qu'il est important, comme Madame l'a dit, de booster le leadership féminin dans tous les domaines, surtout dans les instances de décision et les hautes sphères de la politique. C'est là-bas que se prennent les décisions. Donc, c'est une chose de célébrer le mois de mars ou le 8 mars, mais c'en est une chose de vraiment prendre des décisions pour qu'il y ait plus de femmes dans ces instances où les grandes décisions se prennent, y compris dans les décisions qui permettent de mettre fin à un conflit. J'ai juste peur que, généralement, qu'il y ait beaucoup de vœux pieux, mais que dans la réalité, ça ne soit pas vraiment le cas en vogue aujourd'hui, de dire, voilà, il faut une plus grande place aux femmes, mais dans la réalité, c'est pas toujours évident, il faut promettre. Et je dois dire que ce n'est pas seulement en Afrique, même ici aux États-Unis, c'est vrai que les femmes ont percé un peu le plafond dans plusieurs domaines, et il y a des domaines où il y a même plus de femmes, mais en politique, si on voit la composition du Congrès, il y a encore très peu de femmes comparées aux hommes. On n'a jamais eu de présidente, de femme donc à la tête du pays, alors que dans d'autres pays, même en Afrique, on en a. Donc c'est un peu, sur le plan politique, les avancées sont très lentes. Je donne l'exemple de mon pays d'origine, le Sénégal. C'est vrai qu'il y a la loi de la parité pour les postes électifs. Vous allez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on a 44% de femmes. C'est énorme. On devait être à 50-50. On est à 44, ce qui est déjà très bien. Mieux en tout cas que beaucoup de pays, y compris les États-Unis. Mais simplement parce que les gens essayent de respecter la loi qui a été instaurée durant la présidence de Wad. Parce que c'est des élections, disons, bien médiatisées. Mais dès que vous allez, par exemple, pour les élections locales qui sont moins médiatisées, où il y a moins d'attention, là, on ne respecte pas vraiment la loi, alors que là aussi, on devrait être, la loi de la parité devrait s'appliquer, mais il y a très peu de femmes qui sont élues dans les instances locales, au niveau des mairies et autres. Donc, je pense que c'est un combat qui doit continuer si on veut que les femmes aient un impact dans la résolution de tous les problèmes, à commencer par le conflit.
Merci, on prend une petite pause en écoutant cette chanson d'encouragement Femme commerçante des Pongolov et on revient tout de suite après.
Bye.
C'était femme commerçante à travers ses classiques et Pongolov loue le courage et la détermination de la femme entreprenante. On l'appelait la voix limpide du Zaïre de son vrai nom, Elfriede Pongolandou, une chanteuse congolaise née le 27 août 1956 à Boma et morte le 15 janvier 1990 à Kinshasa, âgée seulement de 33 ans. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Isabelle Pendeza, Bikaï, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement, Café d'un sigle. Elle est une femme leader et activiste des droits de l'homme du Nord Kivu. Moïse Moussangana, journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis. Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. L'Assemblée nationale a adopté mardi 21 mars le calendrier des matières à examiner au cours de cette session ordinaire de mars, une session éminemment politique. Parmi les matières prioritaires, il y a l'examen du calendrier électoral de la CENI, la loi portant répartition des sièges et toute autre matière allant dans le sens du processus électoral en cours. Il y a également la proposition de la loi dite « loi Tchani ». Cette loi exige des candidats à président de la République la nationalité congolaise des pères et des mères. Abdourahmane Dia, pourquoi vous avez opté pour ces sujets?
Alors, moi, en tant que, disons, non-congolais, quand je vois, j'ai vu que ce débat est en cours depuis 2021 et que est relancé dernièrement, la question qui me vient à l'esprit, c'est le contexte électoral. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas, mais tout ce que je lis sur la question... beaucoup lient ça au contexte électoral et à la volonté d'exclure un potentiel candidat, notamment Moïse Katumbi. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais il est difficile de ne pas penser à cela. Mais ça me renvoie aussi, en tant que journaliste qui a couvert aussi la dramatique situation en Côte d'Ivoire en 2010-2011, la crise post-électorale, cette question de l'ivarité, où est-ce que ça a mené? Sans faire de raccourcis, hein, parce que peut-être chaque pays a sa situation. Donc tout ça me vient à l'esprit. Je me dis peut-être que c'est important d'analyser tout cela. Ce que je retiens, si le but c'est de montrer ou en tout cas de s'assurer que la personne qui va occuper la magistrature suprême est vraiment un patriote, quelqu'un qui aime le pays plus que n'importe quel autre et qui... Il n'y a pas de conflit d'intérêts ou en tout cas une volonté de défendre les intérêts de partis externes. Est-ce que être de père et de mère d'un tel pays est une garantie qu'on aime le pays plus que quelqu'un qui, par exemple, dont le père est sénégalais mais la mère guinéenne? Est-ce que cette personne-là ne peut pas aimer le Sénégal plus que quelqu'un qui est de père et de mère sénégalais? Je pense que c'est une question légitime qu'il faut poser. On ne choisit pas ses parents, je pense. Donc, on peut être né dans un pays et adorer ce pays. Et maintenant, si c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas, entre guillemets, d'agents externes qui viennent pour les intérêts, ça c'est un débat légitime également. Donc, c'est une question assez difficile à répondre comme ça. Mais je pense qu'il faut penser à vraiment faire très attention sur ces questions de nationalité. Pas seulement, je parle pas exclusivement du Congo, mais de façon générale, ça a tendance à être très, très sensible. Et je pense qu'on peut aussi faire en sorte que les pays profitent au maximum de tous leurs citoyens. Aux États-Unis, pour être président de la République, il faut être né sur le sol américain. Que tes parents soient, disons, en russe ou autre, et que tu fasses le test, c'est-à-dire que tu puisses passer toutes les enquêtes d'antécédents, qu'on s'assure que tu n'as pas de lien avec des forces étrangères et autres. Ça, c'est important. Malheureusement, dans nos pays, ça peut ne pas être aussi sophistiqué de mener des enquêtes de personnalité sur les gens, mais je pense que c'est un facteur qui est très important. Le plus important pour moi, c'est ton amour pour le pays. Maintenant, je peux comprendre que certains s'inquiètent que, à cause de la situation dans l'Est et tout ça, qu'on puisse penser que certains pourraient avoir d'autres allégeances, si on peut le dire ainsi. Mais pour moi, tous les pays, hein, pas seulement RDC, devraient aborder ces questions avec beaucoup d'attention et éviter de ne pas faire aussi des amalgames, n'est-ce pas?
Merci Moïse Moussangana. Que répondez-vous à ceux qui qualifient cette proposition de loi de discriminatoire et de xénophobe?
Non, non, je pense que il y a risque et il y a aussi des gens qui suscitent aussi une peur sur cette question parce qu'on pense qu'on peut glisser vers l'ivoirité des tristes mémoires et qu'on sort avec tout ce ça a mené comme malheur en Côte d'Ivoire. Donc on a peur. Est-ce que c'est une condition pour qu'on n'en parle pas? C'est ça la question. Oui, l'amour, j'ai dit oui, Kissinger, c'était le grand secrétaire d'État américain, il a beau aimer l'Amérique, mais il ne pouvait pas postuler comme président de la République. La même chose que Madame Albright, il y a des exemples comme ça, des gens qui aiment bien l'Amérique, qui ont choisi de venir en Amérique, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'Amérique, mais ils sont plafonnés quelque part. C'est-à-dire que chaque pays a sa législation et qu'on sort. Il faudrait interroger la législation congolaise en la matière. Quand vous voyez, vous allez dans la loi électorale congolaise, vous allez voir que l'élection présidentielle est la seule où on exige que chaque candidat produise une attestation de nationalité. Alors qu'on n'en exige pas pour le législatif national, pour le législatif provincial, pour les sénatoriales, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui a fait que les législateurs, même si on n'a pas beaucoup appuyé sur ça, exigent que pour l'élection présidentielle, qu'on requiert l'attestation des nationalités? Alors, c'est pourquoi je dis que la peur qu'on fait répandre là est insensée. Donc il est question que tout prétendant au fauteuil présidentiel en République démocratique du Congo prouve qu'il est congolais. Et la nationalité est congolaise, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'on l'acquiert soit par le sang ou soit par la naturalisation. C'est question de prouver parce que la loi l'exige, la loi électorale l'exige. C'est un faux débat à la limite pour moi. On répand la peur pour rien. Mais je crois qu'il faut aussi corser certains critères. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, pour être président, on a beau être, on est né aux États-Unis, ceci, mais on vous exige que, avant de poser la candidature, il faut que vous ayez, que vous soyez resté aux États-Unis pendant, je crois, 14 ans, sans sortir des États-Unis. Mais c'est leur loi. Ils ont voulu comme ça, ils ont voulu comme ça. Nous n'avons pas un mot à dire là-dessus. Donc, nous aussi, nous devons apprendre à mettre en place les législations idoines. Mais vous allez voir que dans certains textes au Congo, vous avez par exemple les textes qui régentent la Banque centrale du Congo. On exige dans ces textes-là que la personne qui peut prétendre à être gouverneur de la banque doit être congolais de père et de mère. Et la banque centrale, c'est une excroissance des institutions congolaises. Mais maintenant, au cœur des institutions, et encore en plus, l'institution président de la République, qui est la première institution du pays, merci, qui incarne la nation. Merci. Je crois qu'on doit être quand même rigoureux.
Madame Isabelle Pendeza, discriminatoire, xénophobe, c'est comme ça qu'on qualifie cette proposition de loi appelée loi Tchani. C'est quoi votre avis, Madame Isabelle Pendeza?
La proposition de la loi a été initiée pas dans l'intérêt, je crois, de diviser les Congolais. Hein. Parce qu'on est Congolais, pas seulement parce qu'on est né, c'est les seuls Congolais, ou parce que si on a l'identité d'un Congolais, mais aussi c'est quand on joue bien son rôle en tant que Congolais, en tant que compatriote. Ça veut dire que moi, cette loi, je n'ai jamais eu l'analyse concrète de cette proposition parce que si c'était le cas, alors le monsieur lui-même qui a proposé cette loi, j'aurais appris que lui-même avait une double nationalité, à moins que je me trompe. Mais nous avons beaucoup de Congolais qui ont des nationalités étrangères et aussi la nationalité congolaise. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais la notion de nationalité ne peut pas nous ramener la paix ou le développement de notre pays. Ça, c'est mon analyse à moi. Et cela me pousse à dire, si on est fier d'être congolais, si on est conscient de ce que nous pouvons apporter au Congo en tant que des citoyens congolais, faisons des choses dans les normes, faisons des choses concrètement et aussi n'allumons pas les feux, peut-être que nous ne serons pas en vie de de peindre. Parce que dans le cas général, il a raison de donner sa proposition. Et cette proposition ne signifie pas que ça va régler toutes les questions en RDC. Donc c'est aux Congolais de l'analyser avant de prendre des décisions concrètes par rapport à cela.
Merci, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Madame Isabelle Pendez-Abikai, à Monsieur Moïse Moussangana et à Monsieur Abdourahman Dia d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique avec la participation de Billy Landry Betou, à la réalisation Lèche Walassa, sous la supervision d'Alex Sommé, Martin Sebujangwe et d'Étienne Rougeri, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Affaire Kitikwala du poète Lutumba Simaro Masia, contenu dans l'album Maya, sorti en 1984, et on se retrouve le samedi prochain.
Bisambwe, tata yelanga linda nana, kimposa ya koyemba ona kolela la vie mpasi ya mokili. Bisambwe masasi, tata yelanga linda nana, kimposa ngana yemba ona koyemba mpasi ya mokili. Bisambwe lunsadila tata simanga itokene na mokili ya seto zwite oto kozwa tako na paradiso. Sambela kae na tango ya mpoko aliboso ya kolala, sambela kanza komba. Sambela kae ata liboso ya kobenda mwa mpoko, sambela kae yave. Na mokili ya nse Zamba kababa chansa kababi lo mio, na mon fiancé, égalité ike leveo, na mon fiancé, eko mama bongo, égalité o, égalité la zando pe na tango yaliwa, ole la kate o. Na bolingo yansé, mi bali bali ni se basi ya mobulu, oya konyo kola ye, nye akolinga ye mingyo. Eko mama bongo, basi bali ni mabala ya monyokoli, oya kosali saye, nye ako kamata inde zoba, na boli moyanse. Eko mama bongo, moto yo kolinga ye, nye ako linga mososo mama ye ye, ye 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 ye. Odi na siti ye, neko sika nano kole la longo na loba kona litama ye. Longola loba konali kama kiliko e, longola mpinzoli na miso amisi e, longola loba konali kama omko na kore la labi. Mpasi ya mokile. Ngaina zalaka na zua, natekela basi ya mabala, nazalaka lolendo. Na tikela bae baswa kitoko, kitoko elo kopambae, kitoko nde mabeleo. Na zara kalo puta, na tikela batayor na bame mizeo, mamae. Na tikela bae suver na bame kanisye elo puta nangai. Na kinela ba teknise ya ba televizyon na ba frigo. Na kabalo puta nanga na ba ekro na bangangang kitiye, mamae ye. Namo kiliyansé, eloko moko tokopesa toli, ata ozangi nyonso kasi kozanga mbeto te o. Soma mbeto ya kitoko, mokolo yoko kufa ndeko, esoki mbeto ya kitikwala, ebembe na yo ekoyoka nsomi. Kinshasa makambo, na matanga somona kande makambo, basusu bakolela, basusu bakotonga mbeto ya mowei, surtout soki oyebanaka mokilingo makambo mama. Mokili
la tamba mali.